Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h09. Nous sommes en direct pour 2h. Pas mécontent de vous retrouver, vous et toute l'équipe de Culture Média, après ces journées de grève, épisode inédit dans l'histoire d'Europe 1. Au menu, ça n'a pas changé. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, littérature et cinéma. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Mais également Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock et son zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias et les audiences avec Antoine Genton. Notre info média va saluer Splend, un nouveau média d'investigation qui vient de publier sa première enquête, les causes et les conséquences néfastes de la production d'ammoniac en Bretagne. Des articles disponibles gratuitement en français et en breton. C'est l'une des particularités de cette association dont les deux piliers sont aussi l'indépendance et la défense de l'intérêt général. Nous sommes avec l'un des cofondateurs de Splend et avec celle qui a signé cette première enquête. Nos invités ensuite, Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6. On dressera avec lui un bilan de la saison de la chaîne et on va également dévoiler Domino Challenge, nouvelle compétition spectaculaire qui démarre ce soir en prime time et pour laquelle M6 a grillé TF1. Enfin, l'écrivain Nicolas Rey, fantasque et romantique, éternel amoureux sous cocaïne et anges artificielles, pour son nouveau roman La Marge d'erreur. Comme dit Jean-Luc Godard qu'il cite, la marge, c'est ce qui fait tenir le livre. On tient debout, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous et un petit bonjour aussi à Louise Bernard.
Exactement, pas mécontent de vous retrouver au sommaire de votre journal des médias Antoine.
À la fin de la grève à Europe 1, la personnalité télé préférée des Français et puis la disparition d'un quotidien.
Mais d'abord les audiences Antoine, qu'ont regardé les Français hier soir à part le foot France-Portugal.
Alors France-Portugal, vous aimez le suspense hein, Philippe,
oui.
Donc on va attendre encore un petit peu. Qu'ont regardé les Français à part le football France 2 qui arrive en deuxième position avec 3 100 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience pour un téléfilm policier, une rediffusion. Rouge sang avec Sandrine Bonnaire et Bernard Lecoq. Sur la troisième marche du podium, France 3, Déraciner des ailes, un numéro consacré au Périgord, 1 230 000 téléspectateurs, 4,6% de part d'audience. Et donc, sur la plus haute marche du podium, le football.
M6 avait fait 15 millions.
15 100 000 pour M6, 15 600 000 pour TF1, qui fait donc légèrement mieux que France-Allemagne, qui était le premier match des Bleus hein, il y a 8 jours. France-Portugal, 15 600 000 téléspectateurs, 57,6% de part d'audience. C'est le nouveau record d'audience cette année, toutes chaînes confondues. Et ce sont les trois seuls programmes, ceux que je viens de vous donner, qui sont au-dessus du million de téléspectateurs hier soir.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec à la une la fin de la grève à Europe 1.
Une grève qui a duré 5 jours, mouvement d'une ampleur et d'une durée inédite dans l'histoire de la station. Elle a pris fin hier à 13h après une réunion entre la direction d'un côté et de l'autre les syndicats et la société des rédacteurs, la SDR, dont le président a qualifié cet échange d'apaisé et constructif. La direction d'Europe 1 s'est engagée, selon un communiqué de l'intersyndicale, à ouvrir une négociation pour permettre à certains journalistes de partir avec des indemnités, ceux qui sont en désaccord avec la future orientation de la station, autrement dit avec le rapprochement entre Europe 1 et la chaîne d'opinion CNews. Quant à la mise à pied de notre confrère Victor Dolande, la procédure n'est pas suspendue, mais la SDR dit avoir senti de la part de la direction, je cite, la volonté de ne pas l'assommer. La grève est terminée, mais la mobilisation ne s'arrête pas, selon les syndicats et la société des rédacteurs. Ils écrivent dans leur communiqué que d'autres actions sont en préparation, actions pour alerter l'opinion sur les risques qui pèsent sur la liberté d'informer.
Et une autre grève a pris fin hier.
Celle lancée la veille au sein de Next Radio TV, la maison mère de BFM TV et RMC. Les syndicats ont rapidement trouvé un accord avec la direction sur des hausses de salaire.
De la fierté et beaucoup d'émotion ce matin à Hong Kong.
Voilà quelques-uns des applaudissements de dizaines de journalistes, ceux du journal d'opposition Apple Daily, après que le dernier article venait d'être envoyé à l'impression. Dernier article de l'ultime numéro. Le journal s'arrête après 26 années d'existence, étouffé par la pression et la répression des autorités chinoises. Elles ont arrêté le propriétaire du quotidien, puis certains de ses dirigeants et de ses journalistes. Elles ont aussi gelé 2 millions d'euros d'actifs, l'empêchant ainsi de poursuivre ses activités. Le Royaume-Uni, qui a rétrocédé Hong Kong à la Chine en 1997, a qualifié cette fermeture de glaçante.
Retour en France, c'était attendu, c'est désormais officiel. Les plateformes de streaming vidéo vont participer au financement du cinéma et de l'audiovisuel.
Netflix, Amazon, Disney Plus pour les plus connus, le décret apparu hier au journal officiel, elles vont devoir verser au moins 20% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France. 25% même si elles diffusent des films dans les 12 mois qui suivent leur sortie au cinéma. Une disposition qui préfigure d'ailleurs une réforme de la chronologie des médias, ces règles qui régissent l'ordre et les délais de de sortie des films en France. Au cinéma d'abord, puis en streaming à la télévision et en DVD.
Stéphane Plaza, personnalité télé préférée des Français.
Oui, l'animateur d'M6 arrive en tête du sondage annuel de TV Magazine, sondage réalisé par Opinionway. Il devance Jean-Luc Reichmann de TF1, Stéphane Bern de France 2 et d'Europe 1. Karine Le Marchand, première femme de ce classement, arrive cinquième.
L'actualité des médias en cette fin de saison, ce sont aussi les transferts, le mercato, comme on dit.
Oh oui, et il y en a eu un hier, celui du journaliste Thomas Misraki. Il quitte BFM TV pour qui il travaillait depuis 2005, depuis la création de la chaîne. Direction LCI pour lui. Il devrait y présenter la tranche 9h midi avec une co-présentatrice dont le nom n'a pas encore été donné. C'est une information de nos confrères du Parisien. Autre information du Parisien, le départ de deux des journalistes de Quotidien sur TMC. Paul Larouturou, l'un des reporters les plus chevronnés de l'émission. Le journal écrit qu'il a reçu plusieurs propositions, sans en dire plus. Et puis Salia Braclia, présente chaque samedi, elle, chaque vendredi cette saison. Elle devrait se concentrer sur l'interview politique quotidienne qu'elle co-présente avec Marc Fauvel sur France Info à 8h30.
Merci beaucoup Antoine Genton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à Splende, nouvelle ONG bretonne, ONG d'investigation, qui publie sa première enquête consacrée à la pollution à l'ammoniac. On en parle avec l'un des cofondateurs de Splende, Gwenvael Delanoë, et la journaliste Caroline Trouillet qui signe cette enquête. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média, l'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Il s'appelle Splende, c'est un nouveau média d'investigation qui vient de publier sa première enquête. C'était la semaine dernière, trois longs articles consacrés aux causes et aux conséquences néfastes de la production d'ammoniac en Bretagne, trois papiers disponibles gratuitement en français et en breton. C'est l'une des particularités de cette association dont les deux piliers sont l'indépendance et l'intérêt public. Bonjour Gwenvael Delanoë.
Salut Dor, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, vous êtes l'un des cofondateurs de Splende. Bonjour Caroline Trouillet.
Bonjour.
On vous entend très bien, il y a un petit décalage mais ça va aller. C'est vous qui avez écrit cette première enquête estampillée Splende, enquête qui porte sur l'ammoniac. Pardon. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet précisément ?
En fait, on s'est intéressé à l'ammoniac plus largement et sa pollution en Bretagne à partir d'un point de départ qui était de s'intéresser à un industriel, donc producteur d'engrais, assez connu en Bretagne, donc la Timac, qui est une filiale du groupe Roulier, puisque à Saint-Malo, où ces usines sont présentes, il y avait eu une pollution très importante d'ammoniac, enfin en fait des dépassements de seuils autorisés. Et en fait, on s'est aperçu que ces dépassements-là, ils avaient eu lieu alors même que probablement 10 années auparavant, il y avait eu des émissions d'ammoniac qui étaient passées sous les radars des autorités. Et suite aux échanges avec à la fois des médecins et aussi en regardant un peu la bibliographie scientifique sur le sujet, on s'est rendu compte que la pollution de l'air à l'ammoniac était un sujet important en Bretagne, qui était un peu le parent pauvre aussi quand on s'intéresse à l'environnement. Et voilà, on a décidé de lui donner un éclairage plus large à l'échelle de la Bretagne, puisqu'elle est la première région émettrice.
Gwenvael Delanoë, avant d'en venir à ce que le papier découvre au sujet de l'ammoniac, d'abord pour qui aurait séché les cours de chimie, comment définir l'ammoniac ? C'est un gaz ?
L'ammoniac existe sous forme aqueuse aussi. Pour l'expert en la question, ça va être plutôt...
Ouais, alors attendez, je vais poser la question, comment vous entendez très très mal, je vais poser la même question à Caroline Trouillet. Comment définir l'ammoniac ? Quelles sont ses caractéristiques et quels sont ses dangers éventuels ?
Oui, alors l'ammoniac, en fait, c'est une substance chimique qui se dégage dans l'air suite à la décomposition dans la nature de matières animales ou végétales, donc essentiellement des déjections animales. Mmh. Et c'est pour ça qu'il provient essentiellement aussi de l'élevage intensif, puisque il va se dégager dans l'air au moment où sont épandus dans les champs et les cultures, eh bien les lisiers, les effluents et aussi les engrais à base d'azote. Ensuite, l'ammoniac, en fait, on peut le retrouver de manière accidentelle aussi dans les cours d'eau et les rivières quand il y a des ruptures accidentelles, par exemple, de fosses à lisiers, des déversements de lisiers dans l'eau. Et ce qui est le plus préoccupant avec l'ammoniac, c'est qu'en fait, il réagit dans l'air avec d'autres polluants, notamment issus du trafic routier, pour former des particules fines qui, elles, sont nocives pour la santé. puisqu'elles sont à la source en fait de morts prématurées liées à des cancers, mais aussi des maladies cardiovasculaires.
J'ajoute que c'est un gaz inodore, mais odorant, on le sent. En revanche, très irritant pour le système respiratoire, la peau, les yeux. Donc on comprend l'intérêt. En revanche, maintenant c'est l'intérêt spécifique, car vous êtes un média breton. En quoi l'ammoniac pose-t-il particulièrement problème en Bretagne? Vous l'avez dit d'abord, à cause de l'élevage intensif. La Bretagne représente 58% du cheptel de la production porcine en France, c'est ça?
Oui, le chiffre pour les élevages porcins, il est assez emblématique. Après, il y a aussi 20% des élevages laitiers, un poulet sur trois produit en Bretagne. Donc, c'est vraiment la région productrice, la région agroalimentaire de France, voire d'Europe. Ce qui a aussi ses conséquences en termes de pollution de l'air, puisque l'élevage, je parlais des effluents, est à la source de 99% des émissions d'ammoniac en Bretagne. Mmh. Et en fait, en Bretagne, il y a, du coup, on considère en tout cas une nécessité de pouvoir le mesurer de manière précise pour aussi appréhender les risques sanitaires. Et finalement, l'association qui est chargée de surveiller la qualité de l'air en Bretagne, elle a eu très peu de moyens pour le faire jusqu'ici. Mmh. C'est la moins dotée de France. Et il y a un seul appareil qui a été mis en place pour mesurer l'ammoniac dans l'air depuis décembre. Mmh. Donc voilà, il y a une nécessité de pouvoir mesurer de manière plus fine ces émissions d'ammoniac et après de jouer sur les régulations politiques, puisqu'il y a eu aussi des plans de subvention importants sur les filières porcines, avicoles, sur des échelles industrielles. Nous, on pointe les élevages qui sont sur la carte, sont vraiment sur des échelles très grandes, plus de 40 000 poules, plus de 2000 porcs.
Ouais. Et voilà. Gwen Vaël de la Noé, vous êtes cofondateur de Splend. Qu'est-ce que vous avez découvert en découvrant cette enquête, si tant est que vous ayez découvert, puisque vous connaissiez aussi quand même le sujet?
C'est surtout l'ampleur du sujet, au final. L'ampleur du sujet, et puis le fait qu'il est connu depuis longtemps aussi par les pouvoirs publics. Mal connu, certes, mais il a été pointé du doigt il y a déjà... déjà dans les années 90, donc les chambres d'agriculture, elles sont conscientes de ce problème-là, certains pouvoirs publics aussi. Après, les mesures qui sont prises, qui sont mises en œuvre pour réduire l'ammoniac, elles sont vraiment pas du tout à la hauteur des enjeux. Et là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'autorité environnementale qui est chargée d'étudier tous les plans, programmes et les différents gros projets, donc que ce soit par exemple des agrandissements de grosses porcheries ou poulaillers, etc. Mmh. Donc effectivement, l'ammoniac, il reste pas pris en compte comme il devrait l'être.
Ouais. Alors justement,
nous, on espère que ça va changer.
Justement, à propos de la surveillance de ce polluant, là encore, il y a beaucoup de lacunes. Vous citez, Caroline Trouillet, l'exemple d'Airbraise, agence chargée de surveiller la qualité d'air en Bretagne. Cette agence a commencé à mesurer le taux d'ammoniac dans l'air en 2002, et puis plus rien pendant près de 20 ans. Pour quelle raison? Je crois qu'on a perdu Caroline Trouillet. On pourrait peut-être marquer une courte pause. Vous êtes là, Caroline, ou pas? Sinon, on marque une courte pause et on revient vers vous une fois qu'on aura rétabli la liaison. Car je le rappelle, nous parlons de Splend, qui est un média breton et il se trouve en Bretagne. Nous sommes avec Caroline Trouillet, qui est reporter, et Gwen Vaël, de la Noé, qui est un des cofondateurs de Splend. On marque une courte pause, on les récupère en liaison. Culture Média continue. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gwen Vaël de la Noé, il est l'un des cofondateurs de Splend, un nouveau média breton qui vise l'intérêt général et la transparence. Média gratuit sur lequel on peut lire une enquête en trois parties signée Caroline Trouillet. Cette enquête parle d'ammoniac. Je vais redire la question à laquelle vous n'avez pas pu répondre tout à l'heure pour cause de mauvaise communication. Je précise que vous êtes en Centre-Bretagne, qui n'est pas tout à fait une zone blanche, mais on note que les conditions de communication ne sont pas toujours très faciles. Caroline Trouillet, donc je dis que vous citiez l'exemple d'Airbraise, une agence chargée de surveiller la qualité de l'air en Bretagne, agence qui a commencé à mesurer le taux d'ammoniac dans l'air en 2002, et puis plus rien pendant près de 20 ans. Pour quelle raison?
Ah oui, en fait, en 2002, elle a mesuré l'ammoniac en zone rurale. Après, il y a eu d'autres mesures, mais ça concernait les milieux urbains. Mmh. En fait, c'est tout simplement par faute de financement public. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'association de surveillance de la qualité de l'air la moins dotée de France. Donc, pour pouvoir se doter d'appareils de mesure, ça coûte très cher, hein, 60 000 euros. Elle a besoin d'avoir des subventions spécifiques. Mmh. Et donc, elle a dû faire un dossier très argumenté sur la nécessité de pouvoir mesurer ce polluant pour obtenir une subvention donc, de la région et du ministère de la Transition écologique l'année passée.
Alors, ce que vous dites dans votre enquête, c'est qu'on l'a dit, l'ammoniac est un gaz irritant pour le système respiratoire, pour la peau, pour les yeux. Il peut devenir une source importante de particules fines, à l'origine d'une importante mortalité prématurée. Et pourtant, ce que montre votre enquête, c'est que l'ammoniac n'est pas en France considéré comme un polluant réglementé dans l'air ambiant, contrairement par exemple aux oxydes d'azote, à l'ozone ou encore aux métaux lourds. Là encore, comment expliquer ceci ?
C'est probablement parce que l'ammoniac est un des précurseurs des particules fines qui, elles, sont réglementées. Mmh. Ceci dit, les chercheurs pointent la responsabilité très importante de l'ammoniac dans le processus de formation des particules.
D'accord.
Il peut voyager très loin, en fait, et provoquer une pollution dans des milieux urbains, dans des grandes agglomérations qui sont très loin aussi des zones agricoles.
Alors au-delà des chiffres, il y a un enjeu sanitaire et une réalité humaine. Les éleveurs, en particulier les éleveurs de porcs et de volailles, sont les premiers exposés à l'ammoniac. Quelles sont les conséquences sur leur santé à eux ?
Alors l'Institut national de la recherche agronomique a pu mettre en avant effectivement avec des recherches épidémiologiques le fait qu'il y avait une prévalence de pneumopathie, de maladies respiratoires et pulmonaires chez les éleveurs. Parce qu'eux sont exposés directement aux émissions d'ammoniac, aux poussières, aux particules, quand ils travaillent dans les bâtiments, quand ils prennent soin des animaux. Et il y a aussi une prévalence pour l'asthme chez les éleveurs laitiers dans le Finistère Nord, là où effectivement il y a des élevages importants. Et sur la carte, on voit bien, elle est particulièrement rouge cette région.
Je vais poser une question média à vous, Caroline Trouillet. Ensuite, je donne la parole à Gwenvaël Delanoë. Caroline Trouillet, dans quelles conditions s'est déroulée votre enquête ? Pour être clair, quel accueil avez-vous reçu de la part des éleveurs ?
Alors, c'est assez compliqué de pouvoir avoir un contradictoire, effectivement, quand on est sur ces sujets-là, parce qu'il y a de la méfiance. On a aussi cherché à avoir la chambre d'agriculture. Finalement, ça a été assez compliqué, laborieux. Bon, on n'a pas pu les avoir à temps.
C'est-à-dire qu'ils refusent de vous parler.
Non, là c'était pas un refus exprimé, mais c'est laborieux en fait. Voilà, pendant plusieurs semaines on a cherché à les avoir, ça n'a pas été possible.
Ma question différemment. C'était laborieux parce qu'ils ne voulaient pas vous répondre ou c'était laborieux parce qu'ils étaient extrêmement occupés par ailleurs ou est-ce que c'était une manœuvre dilatoire pour ne pas avoir à vous répondre ?
Alors ça je ne peux pas dire, je ne vais pas le dire, mais. Il n'y avait pas de refus, au contraire, il y avait plutôt une volonté de communiquer. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Après, de toute façon, cette enquête, elle est pas à charge. On a bien évoqué dans l'enquête ce qui avait été mis en place par la profession, notamment la Chambre d'agriculture. Mmh. Après, sur cette enquête, ce qui était aussi intéressant, c'est quand j'ai travaillé sur le cas de la TIMAC, là, ça a été aussi assez compliqué d'avoir des témoignages d'anciens salariés. Puisque c'est un sujet sensible à Saint-Malo, la parole est vraiment verrouillée.
Mais oui, justement,
c'est un secteur économique important.
Enquêter sur l'élevage, sur l'agro-industrie en Bretagne, c'est pas facile, ça peut même être dangereux. On l'a vu ces derniers temps avec les menaces qui ont été reçues par deux journalistes, Inès Léraud qui avait travaillé sur le dossier des algues vertes et Morgane Large qui avait enquêté sur l'agro-industrie. Morgane Large, c'est cette journaliste dont la voiture avait été sabotée en mars, des boulons d'une de ses roues avaient été retirés. Elle était l'invitée de Culture Média quelques jours plus tard. Voici ce qu'elle en disait.
Je suis très fragilisée en vérité, pour être honnête. Moi, j'ai envie de pouvoir exercer mon métier. J'adore mon métier. Et je ne vais pas m'excuser d'avoir envie de faire mon métier bien et d'être exigeante. Je n'ai pas peur d'être davantage interpellée que je ne le suis. Ça ne me pose aucun souci d'être interpellée parce qu'on crée des débats, on parle d'enjeux qui traversent le territoire et ça ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs. Mais j'ai peur d'être une cible et je me demande comment je vais retourner sur le terrain en vérité.
Gwenvaël Delanoë, comment avez-vous réagi à ce témoignage ?
Bah déjà, Morgane, c'est ma collègue. Donc, autant dire que les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour tout le monde. Hein. parce que c'est une ambiance générale qui en Bretagne est de plus en plus tendue. Le dialogue devient presque impossible en fait entre certaines parties du modèle agricole breton et puis une partie de la société. Et puis nous, les journalistes, on se retrouve au milieu, donc c'est vraiment compliqué.
Mmh. Et est-ce que ce sont ces tensions qui ont présidé au lancement de ce média Splend?
C'est clair qu'on est dans ce contexte-là. Et que, en fait, si vous voulez, en Bretagne, on a beaucoup cette image de carte postale qui plaît beaucoup aux Parisiens qui viennent acheter des maisons et tout ça. Mais la réalité est souvent assez différente. Et le problème, c'est que quand on commence à les corner, et nous, en tant que journalistes, c'est-à-dire à faire notre boulot et à dire un petit peu les réalités qui sont sur le terrain, on peut avoir de grosses pressions, alors qu'ils s'exercent de différentes manières, de plus ou moins subtiles ou plus ou moins directes. Comme ça a pu être le cas pour Morgane ou pour Inès. Mmh. Donc oui, Splend est arrivé dans ce contexte-là, c'est certain.
Justement, média d'investigation breton Splend, comment vous pourriez le définir, Gwenvaël Delanoë?
Eh bien, c'est un média qui est complémentaire à ce qui existe déjà en Bretagne, hein, parce que paradoxalement, on a la chance de disposer de beaucoup de journaux et de journalistes en Bretagne, mais qu'on on n'a pas forcément le temps dans ces cadres-là de faire d'investigation. C'est super long, ça coûte cher. Et donc nous, on avait comme souhait de vraiment se consacrer que à l'investigation, donc en mettant tout l'argent nécessaire et le temps nécessaire que pour ça, pour donner un contenu ensuite qui soit gratuit, qu'on diffuse aussi gratuitement avec un réseau de médias partenaires. Mmh. Et évidemment en breton, hein, parce que moi je travaille aussi par exemple en breton, et il y a une demande forte et de plus en plus forte aussi à ce qu'on ait
en breton,
de l'information en breton.
En breton, en langue bretonne et en langue française,
Les deux, sur le site. Tout est bilingue.
Vous disiez que ça coûte cher, comment êtes-vous financé si c'est gratuit?
C'est que les dons des citoyens, donc c'est ce qu'on voulait, c'est être indépendant de pouvoir politique ou alors financier. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour donner un message de soutien à l'ensemble de la rédaction d'Europe 1 qui fait face à ces mêmes problématiques d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs financiers. Donc nous, on se repose sur vraiment les dons des citoyens et des associations. Voilà. On n'a pas de compte à rendre.
Ouais. Des dons et pourquoi pas d'abonnement?
Parce que on souhaitait vraiment que notre contenu soit accessible au plus grand nombre.
Ouais.
Que l'information est un bien public. Pour nous, c'était pas envisageable de le mettre en payant. Alors même si tout travail mérite salaire. Hein.
Justement, j'allais en parler.
Oui, il y a aussi beaucoup d'investissements bénévoles. Hein. Bénévoles, par exemple, dedans.
Ouais, parce que sur le site de Splend, il est écrit que les journalistes membres de Splend sont bénévoles. Vous n'avez pas été payé pour l'enquête que vous avez publiée, Caroline Trouillet?
Non, en fait, c'est les journalistes membres du comité éditorial qui exercent une coordination en fait, du travail d'enquête, qui travaillent à titre bénévole, enfin, qui sont bénévoles, je veux dire. Moi, j'ai été rémunérée pour ce travail d'enquête, si, tout à fait.
Ah bon, d'accord, voilà. Splend a été lancé en février dernier, première enquête publiée 4 mois plus tard, la semaine dernière. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, Gwenvaël Delanoë?
En fait, Splend, on travaille dessus depuis bien plus longtemps. Depuis le lancement officiel a été en février, mais on avait vraiment lancé les choses à l'automne plutôt. Le travail d'enquête avait déjà commencé aussi. Pourquoi avoir attendu? En fait, on n'a pas attendu. On est allé au bout de l'enquête. Voilà, on a attendu avant de publier que l'enquête soit bouclée. C'est juste
soit
ça.
Abouti.
Bon, après, on a fait le choix d'accélérer un peu quand même sur la fin pour pas que l'enquête passe après les élections régionales. Élections régionales qui sont extrêmement importantes là parce que le modèle agroalimentaire se retrouve au cœur des enjeux de ces élections.
Et le deuxième tour, faut-il le rappeler, c'est dimanche et l'abstention avait été très, très forte. Merci à tous les deux. Caroline Trouillet, journaliste à Splend, qui publie cette enquête qu'on peut trouver gratuitement sur le site de Mediapart qui en quelque sorte vous héberge. Et Gwenvaël Delanoë, cofondateur de ce média d'investigation breton Splend, évidemment qui a son site sur lequel on peut trouver l'enquête en français et en breton. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis la Bretagne. Dans un instant, le bilan de la saison d'M6 avec Guillaume Charles, directeur des programmes de la chaîne. Il nous en dira plus sur les nouveautés qui arrivent, notamment une affaire de domino ce soir. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vondel.
Bonjour Guillaume Charles.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général des programmes d'M6. C'est bientôt les vacances. On va faire avec vous un bilan de la saison, évoquer la grille d'été, la rentrée. Mais d'abord, votre actualité immédiate, Domino Challenge. Nouvelle émission ce soir à 21h, puis tous les jeudis. Vous allez nous dire combien de jeudis. C'est présenté par Stéphane Rothenberg qui présente Pékin Express. Et Issa Doumbia qu'on peut déjà voir sur M6 dans Show Me Your Voice. Expliquez le principe de l'émission. Ça s'appelle Domino Challenge. Mais il ne s'agit pas d'un concours de domino avec la boîte de jeu.
Non, non. Alors, c'est d'abord un gigantesque concours, hein, parce que c'est un plateau de 2000 mètres carrés. Et 6 binômes vont s'affronter dans une compétition créative. C'est un peu ce qu'on adore faire chez M6, c'est mettre en avant la créativité. Mmh. Et donc, ils vont nous proposer des tableaux sur des thèmes, fêtes foraines, par exemple, ce soir. Et c'est d'un énorme travail pour eux. Il faut imaginer que pour faire les fresques que vous allez voir ce soir, chaque binôme aura travaillé plus de 15 heures. Mmh. Donc, au bout de la tension, parce que il y a une énorme tension sur ce tournage parce qu'à tout moment, un domino peut tomber. Donc, c'est vraiment très jouissif ensuite de voir.
Je souris parce que parfois, il n'y a pas un domino qui tombe, mais genre 2000 qui tombent.
Exactement.
Et ça met à bas le travail d'une heure ou voire plus 700 000 dominos de 18 couleurs. C'est un show éminemment visuel. C'est très difficile de faire passer le côté spectaculaire de ce show à la radio. Quand même, on écoute la bande-annonce. Ouais.
Nous vous donnons rendez-vous pour le plus hypnotique et addictif des divertissements.
Domino Challenge!
Ça y est, on y est, c'est le moment de tout donner.
Ouais, ça met un peu de pression.
C'est ça, assez impressionnant.
Ils sont venus de toute la France pour tenter d'impressionner un jury d'experts.
Je pense qu'on va bien rigoler.
Pour cette première épreuve, il y a un thème imposé, la fête foraine.
Je suis excité, j'ai envie de commencer. Et en même temps, ça va être compliqué.
Et c'est pour ça que ça s'appelle Domino Challenge, les amis.
Non. Truchement.
Rendez-vous pour votre nouveau divertissement, Domino Challenge.
On entend quand même au son l'emphase. Vous étiez sur le tournage ?
Oui.
Ça s'est passé comment ?
Alors ça s'est très bien passé, mais je dois avouer que c'est un des tournages les plus stressants qu'on ait du fait des accidents qui peuvent arriver. Ouais. Et je vais vous raconter une anecdote. Ce week-end, vous l'avez vécu à Paris en tout cas, il y a eu un énorme orage.
Monstrueux.
Et les studios sont très modernes, mais il y a quand même quelques gouttes d'eau qui fuitaient du toit. Et donc évidemment, ils avaient tout fini. Donc on avait tous très peur qu'une goutte d'eau à un moment fasse tomber un des édifices. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des systèmes de sécurité, mais par exemple sur des pyramides de dominos, lorsqu'elles tombent, tout est foutu, quoi.
Ouais. C'est un format qui a été inspiré de Lego Masters.
Ouais. Alors, en tout cas, il est différent parce que justement, il y a cette tension du domino qui est très spécifique. Donc, c'est au confluent de Lego Masters, de Domino Day qu'on avait vu il y a quelques années aussi. Donc en effet, c'est une belle compétition.
Parce que Lego Masters qui a été présenté sur M6 par Eric Antoine, qu'on avait reçu pour en parler, il y avait déjà 6 binômes. Comme pour cette émission, dans un décor gigantesque, avec autant de Lego qu'ils le souhaitent. Là, ils ont autant de dominos qu'ils le souhaitent. Et alors, la première épreuve de Lego Masters, il fallait construire des attractions dans un parc d'attractions. Et la première épreuve de Domino Challenge, il faut faire des attractions dans un parc d'attractions.
Alors, c'est une fête foraine, mais c'est vrai que ça inspire en tout cas. L'idée, c'est vraiment d'avoir des tableaux qui soient les plus créatifs possibles. Et donc, vous devez choisir des thèmes qui permettent, en réalité, à l'imagination de chaque binôme de s'exprimer. La petite différence, si je peux me permettre,
bien
sur
sûr.
Le domino, et je ne compare pas les deux, c'est qu'il y a cette tension, en fait, de est-ce que tous les dominos vont tomber.
Ouais.
Donc, vous le verrez, c'est un domino challenge. Et ils ont aussi des challenges réguliers où ils doivent remplir, en fait, des épreuves au sein même des tombées de dominos.
Parce qu'il y a un double paradoxe. Il faut qu'ils ne tombent pas avant l'épreuve et il faut qu'ils tombent ensuite. Et évidemment, je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas tout spoiler. Qui dit compétition dit évidemment jury de professionnels. En deux mots, qui sont-ils ?
Alors, il y a Thibault Laine qui est tout simplement le recordman de France de domino, parce qu'il y a des compétitions de domino pour savoir justement le plus de pièces possible en un temps limité.
Ouais.
Ensuite, Sophie Ferjani, que vous connaissez tous, qui va pouvoir juger un petit peu parce qu'il y a une espèce de 3D, d'équilibre un petit peu architectural aussi de ces compositions. Et puis Paolo Calea, qui est un multi-artiste, qui lui nous donnera sa patte artistique sur la note artistique, on va dire, de la prestation.
Thibault Laine, qu'on présente parfois comme le champion de France des dominos, vous l'avez piqué à TF1, ou plutôt TF1 a failli vous le piquer. C'est le Parisien qui raconte ça sur une pleine page ce matin, je donne le titre, M6 gagne la guerre des dominos. On apprend que vous avez grillé TF1 qui avait prévu un projet similaire, je ferme les guillemets, et Mickaël Zsoltóbroda cite un technicien qui dit « C'était tellement la course entre les deux chaînes rivales qu'Endemol, le producteur, a tourné et monté les épisodes de Domino Challenge en 15 jours, du jamais vu pour un divertissement en prime time, vous confirmez ?»
En tout cas, je confirme qu'on l'a monté très très rapidement. Et puis, ça arrive parfois en télévision, il y a des thématiques, des formats qui existent.
Ah bah oui.
Voilà, on a essayé d'aller le plus vite possible.
La saison dernière, c'était TF1 qui vous avait grillé en annonçant par surprise Good Singer, présenté par Jarry, seulement 3 semaines avant sa diffusion, avant votre Show Me Your Voice, présenté par Issa Doumbia. TF1 et M6 ont prévu de fusionner d'ici à la fin de 2022. En attendant, c'est la course.
Bon, ça montre la vitalité, je dirais, de la télévision, à la fois des chaînes, puisqu'on chacun fait des exploits incroyables pour essayer d'aller le plus vite possible, et puis aussi de la production. On a énormément de formats en ce moment, ce qui n'était plus le cas ces dernières années, mais de divertissements qui apparaissent. Donc c'est plutôt bon signe, en tout cas, pour la télévision.
C'est ce soir jeudi, il y aura combien de numéros de Domino Challenge ?
Il y aura 4 numéros. Donc c'est vraiment une compétition avec une grande finale. Donc dans 4 semaines, à suivre évidemment sur M6.
Beaucoup, beaucoup d'autres nouveautés à venir sur M6. Le bilan de saison que j'ai annoncé et que nous n'avons pas fait, parce qu'on va le faire après une courte pause. On est avec Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, on parle des nouveautés, on parlait de Domino Challenge et ce soir à 21h. Mercredi, ce sera le 30 juin, vous annoncez la soirée extraordinaire présentée par Marie Portolano. Gros transfert d'intersaison. Marie Portolano, journaliste et animatrice que vous avez piquée à Canal+. Pendant l'Euro, elle présente le magazine 100% Euro. Le prochain, c'est lequel ? C'est quand la France va jouer, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Donc elle présente derrière les matchs de l'équipe de France. Et elle sera évidemment présente pour la finale qui sera sur M6.
Voilà, donc là, la France est qualifiée. Ouais. Les huitièmes, ce que vous partagez avec TF1, ça sera sur TF1.
Oui.
Les quarts, chez vous.
Oui.
Les demi, sur TF1. Et la finale sera chez vous, à supposer que la France soit en finale, ce qu'on souhaite tous.
Exactement.
Quand s'est fait le transfert, quand s'est fait la négociation ? C'était une histoire de longue date ou ça s'est fait très très vite, comme Domino Challenge, si j'ose dire ?
Non, on s'est vu en fin d'année dernière. Et après, voilà... Il y avait, je pense, une envie mutuelle de travailler ensemble. Mmh. Au départ, et ça se confirme, sur le divertissement. C'est pour ça qu'elle présentera sa première émission de divertissement mercredi prochain, la soirée extraordinaire. Et puis quand vous avez Marie Portolano dans la maison et qu'il y a l'euro, bah, ça fait quand même du sens aussi de la faire travailler sur son domaine de prédilection qui était le sport. Mais
évidemment,
elle nous a rejoint vraiment pour faire du divertissement. Elle animera le meilleur pâtissier à la rentrée. Qu'elle est en train de tourner et elle animera des divertissements musicaux comme par exemple la semaine prochaine.
Oui, parce que sur Canal+, elle était notamment, on pouvait la voir dans le CFC, le Canal Football Club. C'est également elle qui a signé le doc « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » sorti en mars, qui avait provoqué un petit séisme dans le journalisme sportif, qui avait fait parler d'elle jusqu'au New York Times et jusqu'en Australie. Je vous posais la question des premières rencontres. Sa venue sur M6 n'a absolument rien à voir avec ce doc.
Rien à voir.
Alors qu'elle venait de signer justement chez vous, vous lui avez laissé faire la promotion de ce doc documentaire de Canal+, c'est tout à votre honneur. Elle dit que vous l'avez même encouragée. Dans quel but ?
Bah, en tout cas, c'était un travail journalistique intéressant, important, qui a eu un retentissement. Je pense que c'était important aussi d'en parler. C'est des sujets qu'il faut aborder en télévision. Les premiers qui l'ont laissé faire, c'est quand même Canal+.
Hein, oui, il faut le dire.
C'est pas M6, hein, donc il faut quand même le reconnaître.
Exactement, et Canal n'a pas saisi le prétexte de son départ pour M6 pour ne pas diffuser le doc.
Exactement. Donc je pense que voilà, c'est un documentaire courageux qui a été diffusé. Et nous... quand j'ai rencontré Marie Portolano la première fois, on n'était pas au courant de ce documentaire particulier. En tout cas, ce n'est pas évidemment pour ça qu'on l'a fait venir, c'est pour toutes ses qualités.
Bilan de la saison, je parlais de Top Chef qui s'est terminé. C'était le 9 juin dernier, la finale. C'était également la date de la réouverture des restaurants. Le matin, M6, donc votre chaîne,
ouais,
a acheté des pages de pub dans les journaux. Il y avait écrit « Ce soir, ne regardez pas Top Chef, même si c'est la finale ». Est-ce que vous avez été entendu ? Est-ce que les gens vous ont écouté ? Est-ce qu'ils ont regardé ou pas regardé la finale de Top Chef ?
Alors, on n'a pas fait un sondage pour savoir si ils avaient regardé ou pas suite à la publicité. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était exprimer la solidarité très forte de la chaîne et puis aussi des chefs qui sont dans Top Chef, hein, avec ce grand jour qui était celui de la réouverture des restaurants, hasard du calendrier, mais nous, on a fait un clin d'œil. Et aujourd'hui, vous savez, il y a le replay, donc s'ils étaient au restaurant le soir, ils pouvaient regarder la finale en replay, donc ça ne posait aucun problème.
J'ai les chiffres d'audience, j'ai pas les chiffres consolidés, ça a été une belle saison,
ouais,
ce Top Chef.
Oui, c'était une très très belle saison, y compris la finale qui a été à un très très haut niveau, en particulier sur... Sur les cibles commerciales.
3,16 millions, c'est beaucoup. M6 était en tête devant TF1, mais moins bien que la finale précédente qui était à 4 millions.
Alors c'était un contexte un peu particulier et j'ai envie de dire, voilà, on avait aussi... je pense qu'il y a eu beaucoup de replays et le bilan de la saison est excellent. C'est une saison absolument record pour Top Chef. Donc on est extrêmement satisfait de ces scores.
Et pour M6 en général, quel bilan tirez-vous de cette saison ?
On fait une très bonne saison, ça il faut le dire. Il faut d'ailleurs remercier les équipes, nos partenaires producteurs. Hein. Voilà, on a fait une très belle saison qui est à la fois se base sur des fondamentaux très solides. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même toutes nos marques. Je parle de Top Chef, L'amour est dans le pré, Incroyable talent. Toutes sont revenues très très en forme. Donc il y a un vrai attachement à nos ouais. grands divertissements.
En valeur absolue ou en part de marché ? Parce qu'on peut dire déjà merci le confinement. Évidemment, les gens regardent plus la télévision ouais. quand ils sont chez eux, qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Je n'apprends rien à personne ou quand il fait froid. Mais ce qui compte, c'est la part de marché. C'est l'écart avec les concurrents qui, eux, vivent les mêmes conditions.
Oui, alors moi, je vous avouerai que je regarde surtout la part de marché. Parce que le fait que les gens regardent plus ou moins la télévision, ça peut dépendre. Je ne nous le souhaite pas de confinement. Ça peut dépendre aussi de la météo.
Bien
c'est
sûr.
C'est un élément très important.
De l'heure à laquelle le soleil se couche.
Exactement. Mais l'attractivité, je dirais la force d'un programme, il se mesure particulièrement à sa part d'audience. Et donc, c'est vrai que la chaîne M6 a beaucoup progressé l'année dernière. C'est la chaîne qui progresse le plus dans les grandes chaînes historiques. Et voilà, c'est une saison très satisfaisante avec des bons fondamentaux. Et puis, je dois le dire aussi, beaucoup de nouveautés qui ont trouvé leur public.
Alors,
ça,
justement,
c'est une vraie satisfaction.
Nouveauté spectaculaire, appel à témoins présenté par Julien Courbet, émission en collaboration avec la police, la gendarmerie et le ministère de la Justice en direct.
Ouais.
Quel bilan ?
Alors, bon, le bilan d'audience, il est très bon, je veux dire. Donc,
j'ai les chiffres, 13% en 4 et plus, 17% sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 25% auprès des jeunes, les moins de 35 ans. M6, leader auprès des moins de 35 ans.
Exactement.
Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content ? Est-ce qu'il y aura d'autres numéros
d'appel
à témoins ?
Alors, d'un point de vue audience, on est très content. Je pense en plus, et d'un point de vue aussi en engagement de la chaîne, je pense qu'on est très content aussi. C'est très important, je pense que le programme a été extrêmement bien reçu par le public, parce qu'il est le fruit d'une collaboration entre la chancellerie, la police, la gendarmerie et M6. Donc on a quand même fait des réunions où il y avait tout ce monde autour de la table. C'est un programme sérieux, d'utilité publique, puisque les affaires qui sont couvertes sont choisies conjointement avec toutes ces autorités-là. Et ils nous demandent de faire des appels à témoins quand, véritablement, il peut y avoir une utilité.
Et quel résultat au niveau de l'enquête ?
Alors, à ce stade, nous savons déjà qu'il y a eu plus de 500 appels, ce qui est beaucoup, comparé à d'autres émissions qui existent dans les autres pays, parce que ce n'est pas quelque chose de spécifiquement français. C'est un niveau élevé d'appels. On ne peut pas communiquer parce qu'il y a le secret de l'instruction, mais en tout cas, il nous annonce qu'il y a eu des appels particulièrement intéressants.
Deux petites questions très 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 rapides. Vous avez fait un carton pendant le match France-Allemagne, 15,1 millions de téléspectateurs, mais la plateforme numérique, victime de son succès, ou plutôt de la demande, n'a pas résisté aux connexions. Vous avez présenté des excuses. Est-ce que vous avez identifié le problème ? Est-ce que ça va être renforcé pour le quart de finale ?
Oui, le problème a été identifié, il a été corrigé. Donc il n'y aura pas de problème avec la plateforme qui était le live de Sisplay du match. Et j'ai envie de dire, la solution c'était d'allumer la télévision sinon. Mais en tout cas, on a présenté nos excuses et le problème est résolu.
Pas faux. Guillaume Charles, on n'a pas eu le temps de parler de la rentrée. Ça veut dire qu'on va vous réinviter. Vous allez revenir ici dans Culture Média. Directeur général des programmes d'M6 et je rappelle Domino Challenge, c'est ce soir à 21h sur M6 et puis pendant 4 jeudis. Merci d'avoir été avec nous, Culture
Merci
Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un grand retour très attendu et Bertrand Chameroy pour son écran de veille avec une série inattendue. Notre invité, c'est le romancier Nicolas Rey pour son nouveau livre La Marge d'erreur. Et puis dans les indispensables, une fresque familiale sur fond de 7e art et une sélection de films à voir depuis son canapé. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.